La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans l'univers des contes. Vous souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions vu comment l'un des dragons est né à partir d'une perle par un jeune homme qui avala la perle du dragon. Puis nous avons vu comment un dragon enfermé pendant des siècles dans une petite boîte veut manger son libérateur et comment un jeune homme avisé empêcha cette horreur. Puis un petit dragonnet paresseux qui naviguait entre les dieux et les hommes, entre les cieux, les terres et les mers, comment il a fini par s'occuper de la météo. Et maintenant, je nous invite à plonger dans l'art pictural chinois, cet art millénaire, plusieurs fois millénaire, et qui est un peu déroutant pour nous les Occidentaux, parce qu'il y a une autre dimension, il y a une autre perspective, il n'y en a pas où la perspective est verticale, et le souci est non pas de représenter ce qui est en apparence, mais la vie même. Donc, pour commencer, déconnectons-nous de notre univers. Au matin du matin calme, l'Empire du Milieu, l'empereur, pour le 20e anniversaire de son couronnement, décida d'orner la salle du trône de son palais du plus beau paravent qu'on ait jamais vu jusqu'alors. Il convoqua le peintre le plus célèbre de l'Empire qui habitait dans une caverne, loin de la ville. L'artiste se rendit aussitôt à la cour et l'empereur lui fit part de son désir. Sur le paravent de la salle du trône devront figurer deux dragons, un bleu et un jaune, pour symboliser la puissance de l'Empire et la paix qu'illustre mon règne. Le peintre s'inclina et répondit qu'il peindrait deux dragons sur une soie noire et il posait une condition. Pour que ce paravent soit aussi beau que le voulait l'empereur, il fallait que l'on tisse une soie plus fine que toutes celles qui avaient jamais encore été tissées. « Je vais me retirer dans ma caverne, » ajouta le peintre, « jusqu'au moment où la soie sera tissée. J'aurai ainsi le temps de me préparer à peindre les dragons. » Puis le peintre quitta la cour et retourna dans sa caverne où il se mit au travail. L'empereur donna des ordres pour que la fabrication de la soie la plus fine soit immédiatement commencée. Cette fabrication fut beaucoup plus difficile que l'empereur ne l'avait imaginé. Il fallut d'abord choisir soigneusement les vers à soie, car ceux qu'on avait élevés jusqu'alors ne pouvaient pas tous sécréter une soie aussi fine que celle que le peintre avait demandée. Ces vers, si soigneusement choisis, exigeaient une nourriture particulièrement délicate et les feuilles du mûrier dont se nourrissaient les vers à soie devaient être triées avec le plus grand soin. Malgré toutes ces précautions, quelques-uns seulement des cocons survécurent. Ainsi, un très long temps passa avant qu'on ne réussisse à élever un nombre suffisant de cocons pour obtenir la quantité de soie nécessaire pour le paravent de l'empereur. Et à ce moment-là, une nouvelle difficulté surgit. La soie était tellement fine qu'un très petit nombre de tisserands se montraient capables de la tisser. Il fallait faire appel aux meilleurs artisans de l'Empire. Enfin, on réussit encore à surmonter cette difficulté. La soie destinée au paravent fut tissée. Jamais de mémoire d'homme on n'avait vu de soie plus fine. L'empereur la fit tendre sur un magnifique cadre d'ivoire. Quand le travail fut terminé, l'empereur envoya un messager pour avertir le peintre que la soie était tissée et qu'il devait venir sans retard pour peindre les dragons. Le peintre pria le messager d'avertir l'empereur qu'il n'avait pas encore achevé la préparation de son travail et qu'il lui demandait de patienter. L'empereur, qui avait déjà attendu très longtemps que soit tissée la soie, ne cacha pas sa déception. Puis, il comprit que le peintre voulait préparer un chef-d'œuvre et il attendit. Et chaque fois qu'il passait devant le paravent vide, il perdait patience. Un jour, n'y tenant plus, il envoya un messager pour rappeler sa promesse au peintre. Celui-ci fit répondre que, s'il accédait au désir de l'empereur, il ne serait pas capable de peindre des dragons dignes du plus beau paravent qu'on ait jamais vu. Il lui fallait poursuivre ses essais, et il demanda un nouveau délai. L'empereur, malgré son impatience, fut bien obligé d'attendre. Le temps passait et le peintre ne donnait pas de ses nouvelles. Et chaque fois que l'empereur passait devant le paravent inachevé, il sentait grandir son irritation. Un jour, à bout de patience, il envoya un messager en lui ordonnant de ramener, de gré ou de force, le peintre à la cour. Le peintre accepta enfin de suivre le messager. Il prit avec lui ses pinceaux et ses couleurs jaunes et bleu. Quand il arriva devant l'empereur, il lui déclara qu'il pensait être maintenant capable de peindre les dragons. L'empereur manifesta sa joie. Le peintre s'installa, sortit ses pinceaux, ses couleurs, et d'un seul coup de pinceau, il traça un trait jaune, puis d'un autre coup de pinceau, un trait bleu. Il déposa ensuite ses pinceaux et déclara qu'il avait achevé son travail. Dès qu'on eut annoncé cette nouvelle à l'empereur, celui-ci, heureux de penser qu'enfin le paravent le plus beau qu'on ait jamais vu allait orner la salle du trône, se précipita pour admirer l'œuvre du célèbre peintre. Quand il arriva devant le paravent, il ne put en croire ses yeux. Il ne vit sur l'écran que deux traits épais, l'un bleu, l'autre jaune. Persuadé que le peintre avait tout simplement voulu se moquer de lui, il entra dans une colère terrible. Calmement et avec le plus grand sérieux, le peintre lui affirma que ces deux traits étaient le fruit de longues, longues, très longues études poursuivies pendant des années et des années. Puis il s'inclina et voulut prendre congé de l'empereur. Mais l'empereur, hors de lui, toujours persuadé que le peintre avait voulu faire une mauvaise plaisanterie, qu'il avait gâché irrémédiablement la soie merveilleuse dont la fabrication avait demandé tant de temps et tant de soins, donna l'ordre d'arrêter le peintre et le fit jeter en prison. Lorsque la nuit vint, et bien que sa colère fût toujours aussi grande, l'empereur voulut dormir, mais il en fut incapable. Dans l'ombre, les deux traits, bleus et jaunes, tracés par le peintre, passaient et repassaient devant ses yeux. Quand il fermait les paupières, les traits bleus et jaunes allaient et venaient sous ses yeux et semblaient grandir et se mouvoir. Au grand étonnement de l'empereur, ces deux traits devenaient des dragons qui luttaient. Et ces deux dragons étaient rapides et puissants. Ce qui surprenait le plus l'empereur, c'est qu'ils semblaient vivre et grouiller, c'est qu'ils étaient souples et forts, et que cette force et cette puissance et cette grandeur et cette souplesse étaient résumées par les deux traits que le peintre avait tracés sur la soie. L'empereur, après avoir veillé toute la nuit et admiré les deux dragons qu'avait symbolisés le peintre, décida de découvrir le secret de l'artiste qui avait réussi un tel chef-d'œuvre. À l'aube, il donna l'ordre de seller son cheval et, accompagné de sa garde d'honneur, partit pour la caverne où le peintre avait travaillé pendant de longues années avant de peindre les deux dragons sur le paravent. La tempête les retarda, la neige les obligèrent à rebrousser chemin, mais l'empereur donna quand même l'ordre de repartir. Après avoir voyagé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, ils arrivèrent enfin devant la caverne du peintre. On alluma des torches. En entrant, l'empereur vit deux dragons peints sur les parois de la caverne. L'un était bleu, l'autre jaune. Ils étaient dessinés avec la plus grande exactitude. On distinguait chaque écaille, chaque dent, et leurs narines jetaient du feu. Chaque détail était représenté en bleu et en jaune. Au bas de cette peinture, une date. Celle du jour où l'empereur avait demandé au peintre de commencer à peindre le plus beau paravent qu'on ait jamais vu. À côté de cette peinture, une autre. Celle de deux dragons. L'un bleu, l'autre jaune. À côté de cette deuxième peinture, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Toutes les parois de la caverne étaient couvertes de peintures représentant deux dragons, l'un bleu, l'autre jaune. Chaque image était datée. Les années succédaient aux années. À la lueur des torches, l'empereur ne pouvait s'empêcher d'admirer le travail acharné du peintre. Les images succédaient aux images, les esquisses aux esquisses, et chaque mois, le peintre simplifiait la peinture des deux dragons, l'un bleu, l'autre jaune. Enfin, après une longue suite de dragons, le peintre avait tracé sur les parois de la caverne les deux traits, l'un bleu, l'autre jaune, qu'il avait peint sur le paravent. Dans ces deux dernières images était résumée toute la puissance des innombrables dragons que le peintre avait dessinés pendant de longues années sur les parois de la caverne. L'empereur reconnut les deux dragons du paravent et il se rendit compte que les dernières images ne pouvaient même pas être comparées à toutes celles qui les précédaient. Au fur et à mesure qu'il regardait ses peintures, l'empereur fut d'abord étonné, puis de plus en plus satisfait, et même à la fin, il devint très gai, joyeux. Après avoir regardé une dernière fois les deux traits, l'un bleu, l'autre jaune, il donna immédiatement l'ordre de seller les chevaux car il voulait retourner dans sa capitale. Il avait hâte de faire libérer le peintre, l'honorer, le remercier, parce qu'il lui avait permis de comprendre la puissance et la signification des deux traits, l'un bleu, l'autre jaune, qui symbolisaient les deux dragons. Le peintre fut libéré et l'empereur fit placer le paravent orné des deux dragons dans la salle du trône. Et chacun reconnut que ce paravent était le plus beau de tous ceux qui avaient été vus jusqu'alors. Chères auditrices et chers auditeurs, nous voilà toujours dans les histoires de peinture de dragons. Et là, nous allons au Japon, d'après Jean-Claude Carrière dans le Cercle des Menteurs. Lorsque le supérieur du temple de Myoshinji au Japon voulut faire peindre un dragon sur le plafond central du temple, on lui conseilla de s'adresser au peintre Tanu qui enseignait la peinture à l'empereur lui-même. On disait que les dragons peints par Tanu atteignaient une force de réalité extraordinaire. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a d'autres histoires où un peintre de dragon ne peignait jamais les yeux. Et lorsqu'on lui a demandé de le peindre les yeux du dragon, le dragon s'est envolé dans le ciel. Mais donc, retournons à cette histoire. Donc, voilà un peintre renommé qui entre au temple pour peindre un dragon sur le plafond. Et donc, on disait que les dragons peints par Tanu atteignaient une force de réalité extraordinaire et on racontait même qu'une fois, un plafond s'était écroulé un jour à cause du mouvement parfait donné par le peintre à la queue de l'animal fabuleux. Le supérieur du temple se rendit à la demeure du peintre et examina son travail et lui dit « c'est bien, c'est bien ». Mais je veux que pour le temple de Myoshinji, le dragon soit peint d'après nature. Ah bon, je suis étonnée de ce que vous dites, répondit le peintre. Et je dois avouer que je n'ai jamais vu de dragon. En vérité ? Ah ben oui, en vérité, c'est pourquoi je me vois obligée de refuser la commande. Ah oui, je te comprends, il serait très déraisonnable de demander la peinture d'un dragon à quelqu'un qui n'a jamais vu de dragon. Et pourquoi n'essayes-tu pas d'en voir un ? Et où pourrais-je voir un dragon ? S'écria le peintre. Où vivent-ils ? Mais chez nous, il y en a beaucoup. Veux-tu venir les voir ? Ah, j'accepte aussitôt, dit le peintre. Et les deux hommes se mirent en route. Arrivé au temple, le peintre demanda à voir les dragons. Le supérieur tourna son visage dans toutes les directions et dit au peintre qui se tenait avec lui dans une pièce « Mais ils sont nombreux ici même. Tu ne les vois pas ?»« Ah non, » dit le peintre, « non, je ne les vois pas. » « Oh, comme c'est dommage. Sans doute devras-tu prendre patience. » Et le peintre passa 2 ans dans le temple, pratiquant assidûment la méditation zen, et un matin, frémissant d'excitation, il se précipita vers le supérieur et lui dit « Ça y est, j'ai vu un dragon vivant. Je l'ai vu !» Et le supérieur: « Tu es sûr ? » ?»« Ah oui, je suis sûr, je l'ai vu comme je te vois. »« Oh, c'est très bien. J'étais certain que tu arriverais à le voir. Et maintenant, dis-moi, comment trouves-tu son cri ?» Le peintre n'avait évidemment pas entendu le cri du dragon. Il lui fallut donc une autre année d'exercice pour y parvenir. Enfin, il pouvait voir et entendre son dragon. Il en apercevait même d'autres et quelquefois les entendait. Il peignit sur le plafond central du temple un dragon qui était l'image de la vie même. Toutes les histoires de dragons ne sont pas aussi effectives. Zhuangzi Un philosophe chinois raconte qu'un certain Zhu Pingman se rendit auprès d'un maître célèbre pour apprendre à tuer les dragons. Il travailla durement pendant 3 ans et consacra toute sa fortune à acquérir l'art du tueur de dragons. Et par malheur, dans la suite de sa vie, il ne rencontra jamais un dragon. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, et merci, la technique. Et nous continuerons encore à explorer les contes de dragons, la bête à 7 têtes et toutes ces histoires fabuleuses. Je vous souhaite une joyeuse semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.